Jean de Cutero de la West Coast Aveyronnaise. On est des PD, des gouines, des trans, des non-binaires et bien plus encore. On est aussi ton ou ta cousine, ton frère, ta grand-mère, ton voisin, ta garagiste, ton ou ta prof. On vit ici et on va pas bouger demain.
Il y en a beaucoup dans le coin en fait, des femmes lesbiennes agricultrices. Il y a du verger, il y a des maraîchères, fromagères, voilà. Il y a un nid.
On veut débroussailler les idées reçues en campagne, mais aussi laisser pousser nos herbes folles, faire de la place pour nos prairies, nos friches, nos épines et nos fleurs.
Au fil de notre collectage de récits LGBT en ruralité, nous avons aussi rencontré une personne vivant en collectif aux abords d'un tout petit village du Tarn. Amé a accepté de partager le récit de sa transition, son évolution intérieure, ses doutes, ses soutiens, l'accès aux soins, le regard des autres, sa vie à la campagne et son plaisir dans la danse et la musique. Constellation LGBT en ruralité, une série documentaire réalisée depuis des coins de campagne pluriels. Épisode 6, itinéraire d'une transidentité en milieu très très rural.
Alors bonjour, moi c'est Amé, j'ai 35 ans et j'habite dans le Tarn. Je suis pansexuel, trans et non binaire. Pansexuel pour moi c'est vraiment être attiré par des personnes quel que soit leur genre, leur sexe, vraiment par une personne dans son entièreté. Et je pense que c'est quelque chose qui m'habite en fait depuis longtemps. Quand je me projette, je me revois déjà ado, me dire en fait moi je suis attiré par des personnes et non par, par des sexes ou des genres. Mais à ce moment-là c'était parce que je me disais lesbienne aussi, mais du coup rétrospectivement je me rends compte qu'en fait finalement je pense que je suis pansexuelle depuis longtemps. Alors dans mon adolescence, je dirais que j'avais pas de modèle inspirant, que j'avais une homophobie intégrée aussi, quelque part. Parce que je me rappelle que mes premières attirances pour des femmes, consciemment, ça s'est passé en 6e. Et c'était un peu un drame pour moi, enfin un drame, quelque chose de c'est pas possible de toute manière, et c'est pas naturel, et c'est pas... Donc il va falloir que je le renferme. Et c'était l'époque où, en tout cas moi, entre filles, c'était un peu... L'idée de se faire des bisous sur la bouche, c'était pour s'entraîner, etc. Et je voyais bien que moi, ça résonnait pas du tout de la même manière. En suivant, bah, j'ai essayé de sortir avec des garçons. Voilà, sans plus, quoi. Jusqu'à l'été, la colo avant le lycée, avant la seconde. Où là, oui, j'ai vécu mes premières relations lesbiennes. Et où je me suis dit, en fait, j'ai ressenti vraiment la différence entre... Quand je sortais avec des garçons qui semblaient être des beaux gosses, entre guillemets... Et juste le moment où j'ai partagé cet instant avec cette personne pendant cette colo, et je me suis dit bon, en fait, d'accord. Et après, au lycée, ça s'est enchaîné, j'ai eu ma première amoureuse. Enfin, on se montrait pas... C'était plus de ma volonté, d'ailleurs. Je me rappelle que ma mère aussi avait refusé que cette personne vienne, mais moi, clairement, je mettais pas de mots non plus sur le fait d'être lesbienne ou quoi. Là, c'était un mélange entre, de toute manière, je sais que je suis lesbienne, et à la fois, je sais pas comment l'assumer... Mais je sais que mon parcours va faire que c'est ce qui va se passer, en fait. Je n'aime pas les garçons. J'habitais en périphérie d'une grande ville, donc c'était plutôt un village. Mais un peu ces villages un peu dortoirs, comme ça. Le lycée dans lequel j'étais, par contre, c'était un grand lycée, on était 2000 élèves, donc il y avait quand même une certaine mixité. Donc ensuite, je suis restée un petit peu dans le déni, encore une fois, pour réessayer ensuite, suite à cette première relation un peu longue de lycée. Je me suis dit, tiens, c'était l'exception, voilà. Mais je n'étais pas du tout convaincue, mais voilà. Et donc je suis ressortie avec, je crois, un garçon, deux, suite à quoi je me suis dit, mais pas du tout, donc voilà. Et ensuite, j'ai pas vraiment, en tout cas, été fréquenter des personnes de ma communauté, etc. quoi. Je me suis sentie toujours très seule. Enfin, j'ai eu l'impression, en tout cas, la sensation de gravité autour de personnes qui se disaient hétéros, de pas du tout évoluer dans les milieux queer. Voilà, après, j'ai très vite travaillé, donc j'étais beaucoup sur les routes aussi. Je sais pas si ça a joué aussi. Du coup, j'étais pas du tout implantée sur un territoire, donc peut-être à ce niveau-là, ça joue. Mais je sais qu'après, j'ai eu beaucoup de relations, enfin la majorité de mes relations d'ailleurs, étaient avec des personnes qui se disaient hétéros et où j'étais un peu l'exception qui confirme la règle, quoi. Après, est-ce que c'est moi qui allais chercher ça de manière consciente ou non? Ou est-ce que, à une époque, je disais, en fait, je voulais juste montrer qu'en fait, oui, en fait, les relations queer, ça existe et c'est super. Et à la fois, il y a un autre pan de moi qui disait, bon, bah, de toute manière, je sais que ça durera pas. Puis je sais qu'elle retournera avec un gars, à un moment donné. J'ai fait ce constat-là, ouais. Que j'étais à 99% dans mes relations avec des personnes qui se disaient hétéros. Et bon, en suivant, il s'avère que non, hein. Je suis... Rester en contact avec pas mal de ces personnes et on est maintenant, la majorité sont lesbiennes, du coup on continue à explorer leur vie affective et ou sexuelle avec des femmes ou autres. Et aujourd'hui, par contre, je pense que c'est depuis que je suis dans le Tarn et que je suis installée que je commence à rencontrer un peu cette importance d'appartenir à une communauté en fait et cette force que ça peut donner. Enfin, moi, je sais que, en tout cas, le projet de danse et des rencontres interpersonnelles de personnes qui s'assument en tant que personnes queer, ça date d'il y a, je sais pas, je dirais ça fait 4-5 ans. Enfin, je me rends compte de l'importance et de la richesse que ça a de partager des parcours et des vécus un peu communs, d'avoir en fait un tronc commun avec les personnes. Et je pense que moi, j'ai un réflexe de... J'ai quand même un sentiment de solitude totale, enfin de solitude... de réflexe de gérer les choses en solitaire en fait depuis que je suis enfant et depuis que machin et donc je me dis bon bah voilà tu dois te démerder comme ça toute seule et là de découvrir ce que ça peut donner comme force et comme courage de partager des vécus communs ça me voilà ça confirme l'importance de la communauté. Après il y a un truc aussi ok donc en fait quand tu trouves un confort communautaire, comment est-ce que tu continues à trouver la force de te confronter aussi au monde qui ne fait plus partie, enfin qui ne fait pas partie de ta communauté et qui du coup te renvoie des choses qui peuvent être violentes auxquelles tu peux être quand même plus habitué. En tout cas moi j'étais plus habitué quand je faisais pas partie des communautés et des choses me choquaient moins parce que bah, on allait moins fouiller etc et on avait des trucs qu'on banalisait, enfin des choses qu'on banalisait, que je banalisais.
Quand vous dites que vous faites partie de la communauté ou que vous êtes entouré par la communauté, c'est dans votre espace de vie privée, c'est dans votre, c'est là où vous habitez, c'est dans vos loisirs, dans vos amitiés, c'est où ? C'est à quels espaces de votre vie ?
Je dirais que c'est principalement dans mes amitiés. Ouais, principalement dans mes amitiés et mes espaces de création qui font aussi partie de mes amitiés. Donc, notamment aussi à se projeter de musique. Et le projet de danse, ça c'est les deux espaces qui sont très importants pour moi. Et après il y a de plus en plus de personnes aussi qui viennent s'installer, des personnes queer, et du coup que je ne connais pas vraiment, mais du coup qui font groupe quoi, qui font vraiment du bien de sentir autour. Et voilà, ça donne de la force en fait, parce que c'est vrai que même moi là au niveau de ma transition aussi, il y a beaucoup de questionnements et de peur en fait, parce que encore en tant que Gwyn, etc. Bon bah en fait ça va, depuis que j'ai 12 ans, je sais que je suis Gwyn, je sais que quelle place j'ai dans la société, etc. Aujourd'hui, le fait de transitionner, il y a quelque chose. Il y a quelque chose où on change complètement de place. On passe d'une minorité à une autre minorité, à d'autres stigmatisations, etc. Et du coup, qu'il faut, entre guillemets, enfin, moi, je le vois comme un truc, il faut que j'apprenne à me réapproprier et à me le dire aussi. Je sais qu'il y a des moments où je suis en hyper-fragilité, où, je suis là, en fait, j'aimerais bien juste être. Faire partie du banc de poissons invisible. Et à la fois, quand je vais bien, bon, en fait, non, je suis là, non, justement, je sais qui je suis. J'ai envie de réussir à être fier de qui je suis. Mais voilà. Ça s'est acté dans ma tête depuis, je pense, 5 ans. Vraiment, dans mon genre, ça n'allait pas, quoi. Enfin, me reconnaissais pas du tout dans mon genre. Pour autant, encore une fois, dans cette dynamique de gérer les choses seule, j'étais dans ma tête, quoi. Jusqu'au jour où il s'est avéré que j'ai reçu un mail et qui disait des conneries. Mais qui m'ont, en tout cas, aidé à prendre conscience de, en fait, là, c'est maintenant, il faut assumer, il faut le dire à tes amis les plus proches. Avec qui j'habite. En fait, ça a fait comme un déclencheur, quoi. Je sais pas. Il y a un truc qui s'est déclenché, un truc de... Ok, ce mail parlait d'une transition d'une personne. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est ça que je suis en train de traverser. J'ai besoin de changer de prénom, j'ai besoin qu'on me genre autrement, j'ai besoin de passer par cette zone test aussi, de changer de pronom, de prénom. Il y a un truc comme ça aussi, de dire, ah bah si tu fais ton coming out, il faut que tu sois sûr. Donc, alors du coup, je pense que je me suis aussi beaucoup brimée là-dessus, quoi. Enfin, en tout cas, mis des freins. Et en fait, quand j'ai eu cet électrochoc à la lecture de ce mail, je me suis dit, bah, en fait, c'est maintenant. Et en fait, je pense que quasiment dans les 5 minutes, j'ai envoyé un mail à tout le collectif et j'étais là. Bon, en fait, voilà, il se passe ça pour moi, puisque à ce moment-là, j'étais physiquement pas là. Il se passe ça pour moi, j'ai envie qu'on essaye de me genrer au masculin, que mes pronoms soient yel ou il, en tout cas. Et aujourd'hui, par contre, je ressens aussi ce bien-être communautaire, parce que j'ai des amis trans aussi, et là, j'en reviens de faire un chantier avec un ami trans, et je vois aussi le bien-être que ça fait aussi de juste pouvoir être ensemble, et quand tu rentres dans un magasin, qu'on te met genre, etc., et on sait ce qu'on traverse, en fait, ça fait aussi du bien d'être ensemble et d'avoir quelqu'un qui ressent aussi ces choses-là. Même si on a des... Moi, j'ai des alliés super et qui sont hyper attentifs à tout ça. Mais du coup, tu peux pas le ressentir de la même manière en tant que personne cis. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et du coup, là, ça remet en avant cet aspect de l'importance communautaire aussi, de juste être ensemble, sans pour autant être dans un truc à débattre, mais juste être ensemble et être là, quoi. J'ai changé de pronom et de prénom en même temps. Du coup, il y a eu des petits... Le temps de l'adaptation, mais enfin vraiment, c'est vraiment... En fait, je suis entourée par des personnes incroyables, donc juste, elles étaient là, ben, trop bien. En fait, juste, si tu continues à te rencontrer, on y va, quoi.
Et quand vous rencontrez des inconnus et qui vous met genre, par exemple, comment vous réagissez?
Eh ben... Plutôt, moi, j'ai pas... Là, j'essaye de me construire des armes justement là-dessus. Mais plutôt, bah, j'essaye de parler de moi au masculin. Plutôt, je vais pas relever frontalement. Moi, je suis pas du genre à relever frontalement. Mais je vais ensuite bah, plutôt me genrer au masculin. Après, là, j'aimerais bien instaurer un truc de, par exemple, quand on dit bonjour madame, bonjour monsieur, peut-être dire, bah, on peut dire juste bonjour tout court. Parce que, voilà, juste essayer d'oser faire ça. Après, voilà, faut être en forme aussi. Et justement, ça rejoint encore une fois cette importance communautaire, en fait, de voir, en fait, de partager ces choses-là et ces moments-là, et du coup, pouvoir se donner de la force. Ou alors aussi d'avoir des alliés qui sont aussi prêts et prêtes à soutenir là-dedans. Et est-ce que ce soit pas toujours toi qui dois faire ça, en fait? Là, quand même... Plutôt genre au masculin maintenant, et voilà, et en fait il y a un truc très bateau, enfin depuis que j'ai fait ma mammectomie, en fait les gens quand ils doutent, ben je vois bien, des fois il y a des trucs, on me regarde de haut en bas, on dit ok bon, c'est pas trop où placer cette personne, maintenant plutôt les gens me genre au masculin, et ça me fait du bien, je suis là ok, mais je reste dans un contrôle de ma voix, mais parce que je sais comment me comporter pour avoir un passing dit masculin, bien que je me reconnaisse ni dans l'un ni dans l'autre, je suis quand même mieux dans le masculin, mais c'est encore un truc sociétal hyper contrôlé, quoi. Du coup, je suis pas non plus hyper en accord avec ça, mais du coup, on deal avec ce truc, justement, ça rejoint ce truc de quand on est hors de nos communautés, comment est-ce qu'on deal avec le reste de la société, quoi, pour jouer avec ces codes-là.
Vous parlez de votre voix?
Ouais.
Il y a quelque chose de particulier qui se joue dans la voix?
Ouais, complètement, ouais. Bah en tout cas, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de dysphorie par rapport à ma voix, même si j'ai une voix assez grave. Du coup, j'ai fait de l'orthophonie pour apprendre à placer la voix, parce que ça, du coup, ça existe et c'est remboursé, voilà. Donc, quand on a l'ALD, du coup, l'affection longue durée, qui permet d'avoir des remboursements au niveau de certains soins, quoi. Notamment l'orthophonie, dans le cadre de la transition. Et en fait, avec cette orthophoniste, qui est aussi une personne féministe à fond, mais du coup qui m'a appris à placer ma voix, et en gros, pour avoir une voix dite plus masculine, il faut surtout ne pas mettre d'intonation, surtout faire sortir les trucs du ventre, le son du ventre, et prendre de la place en fait. Prendre de la place, prendre beaucoup de place avec sa voix, etc. Et donc ça, maintenant, j'ai appris à le faire. Donc je sais, par exemple, je le teste aussi au téléphone, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est véridique. C'est véridique. Si je ne mets pas d'intonation, ou si j'ai un truc le plus patronique possible et que j'articule le moins possible, bah là, on me genre plutôt au masculin. Et si je mets mes intonations... En plus, moi, je suis une personne qui, quand même, met beaucoup d'intonations. Et si je mets mes intonations, c'est direct. On me dit madame, c'est fou.
Cette orthophoniste, elle est en milieu rural ou elle exerce en ville?
Elle est en... milieu rural, ouais, milieu rural, mais elle est quand même à une heure de chez moi. Alors pour l'accompagnement médical au niveau de la transition, je me suis pas mal renseignée sur internet déjà pour voir s'il y avait encore le corps médical nécessaire autour de chez moi. Pour l'orthophonie par exemple, c'était grâce à internet et c'était quand même à une heure de chez moi. Pour la mammectomie, j'ai eu la chance que ce soit à Montauban, qu'il y ait un chirurgien qui fasse ça depuis des années dans le parcours de transition, et où moi-même j'étais hyper étonnée et je me suis dit waouh, trop bien. Sinon c'est Toulouse quoi. Et par contre par exemple mon médecin généraliste n'y connaît absolument rien. Donc voilà, elle a validé. Parce que pour avoir la LD, faut faire tout un dossier, etc. Et du coup, faut expliquer pourquoi est-ce que tu veux la LD. Je lui ai expliqué que j'étais en parcours de transition et que du coup, j'avais besoin de faire ce formulaire. Mais j'ai pré-rempli le formulaire, je lui ai expliqué qu'est-ce qui se passait pour moi, qu'est-ce qu'était une personne trans, etc. Donc elle n'est pas fermée, mais elle ne connaît rien, quoi, en fait. Du coup, j'ai commencé aussi la testostérone, là, il y a très peu de temps. Et je suis allée à Toulouse. Et pareil, sur Internet... Il y a des sites, quoi. En fait, on nous dit qu'il faut un bilan endocrinologique. Et du coup, aller voir un endocrino. Donc, ce qui demande normalement un rendez-vous à 6 mois, etc. Et j'avais un rendez-vous endocrino avec une personne à Albi, qui apparemment n'était pas du tout safe non plus, en plus. Enfin, du coup, pareil, par les réseaux, etc. Les retours qu'il y avait, c'était que c'est une personne qui ne connaissait pas du tout les transidentités, mais qui faisait le bilan tout en te jugeant, par exemple. Voilà. Bon, moi, j'ai annulé ce rendez-vous. Pour d'autres raisons. Et ensuite, j'ai entendu parler d'un médecin généraliste qui accompagne des personnes trans depuis longtemps et qui fait le bilan sanguin qu'il faut et qui te prescrit la testo sans problème, en fait. L'endocrino n'est pas une nécessité. C'est juste les médecins généralistes qui refusent pour l'instant, par méconnaissance ou par transphobie ou autre, d'accompagner des personnes trans de manière simple et de ne pas remettre en question. En fait, il y a aussi ça qui est hyper fort. Il y a ce truc-là de, dès que tu vas voir le corps médical, t'es là, en fait, qu'est-ce que je dis ? Moi, en tant que personne trans non-binaire, plutôt, j'ai préféré, face au corps médical, toujours privilégier le fait de dire, bah en fait, je suis une personne trans masculine, donc j'ai vraiment envie de faire ma transition vers la masculinité. Je suis un homme trans, pour être sûr d'avoir plus de crédit. Parce qu'en fait, trans non-binaire, il y a toujours un truc, une peur de dire, ah bah les personnes vont pas te croire, vont dire en fait, t'es sûr, t'es pas sûr. Et du coup, de toujours être dans un truc de justification, bah du coup, tu finis par encore inventer un personnage face au corps médical pour ensuite, pour être toi. Bon, l'avantage avec ce médecin généraliste, par exemple, c'est que non, là par exemple, j'ai pu parler de ma non-binarité sans problème, mais je savais déjà avant. Il y avait tous les retours internet, nanani, nanana. Pour se procurer la testostérone, du coup, t'as une ordonnance et ensuite tu vas à la pharmacie et ils te prescrivent l'ordonnance. Je suis allée dans une pharmacie là, ici, là, à Gaillac. Ça avait l'air d'être quelque chose de banal, voilà. Donc après, la testo, il y en a partout, dans toutes les pharmacies en soi, parce que des hommes cis peuvent aussi parfois prendre de la testo s'ils sont en manque de testo, etc. Moi, j'ai eu la sensation que cette personne était au courant que j'étais une personne trans et j'ai pas eu de jugement. Et les deux fois où j'y suis allée, je suis tombée sur la même pharmacienne. Donc, j'aimerais voir qu'est-ce qui se passe si c'est pas la même pharmacienne. Mais en tout cas, oui, c'est ça. T'as une ordonnance, tu vas à la pharmacie et tu récupères ton ampoule. Et après, t'as une infirmière qui peut venir te faire tes injections. Mais c'est cool d'être autonome au plus vite possible parce que c'est toutes les 3 semaines. C'est une petite injection, après tout le monde a son rapport à l'aiguille, donc c'est pas toujours évident de se piquer soi-même. Donc moi le stress au niveau physique, il est, je pense qu'il était plus présent avant que j'amorce les démarches de transition. Et que de fait, là en tout cas, je sais que la mammectomie c'est plutôt une grosse intervention quand même. Mais moi, c'était hyper libérateur. Je pense que mon entourage était beaucoup plus stressé que moi. Et quand je suis sortie de là, j'étais là genre, waouh, ok, il n'y a aucun moment où j'étais là choquée. Au contraire, c'était un truc très évident de, ok, en fait, j'ai fait ce choix et c'était là et c'était, je sais pourquoi. Et qu'aujourd'hui, ce qui me stresse plus, c'est l'aspect social de ce contrôle que je dois garder parce que justement, avec ces codes, etc., pour ne pas me faire mégenrer, du coup, il faut que je sois de cette certaine attitude, etc. Donc là, si je vivais dans ma communauté de bisounours, etc., queer, nanana, peut-être que j'aurais pas besoin d'aller prendre de la testo à quel niveau, etc. Enfin, des fois, je me pose la question. Je me dis, après, je sais que si, à l'intérieur de moi, là, je fais vachement de dysphorie par rapport à ma voix, même si elle est grave, etc. Mais je fais beaucoup de dysphorie, un peu moins en ce moment, mais j'ai envie de pouvoir garder mon moi et mes intonations, etc. Tout en ayant une voix qui me correspond aujourd'hui. Et du coup, je sais que la testostérone, par exemple, ça va m'aider à ça. Ça va faire baisser ma voix et j'ai trop hâte. Et je pense qu'elle commence déjà à baisser. Parce que là, j'étais arrivée à un stade de ok, qui est à l'intérieur de moi en entendant ma voix et qui me semblait hyper aiguë alors que je l'entends depuis toujours. Mais du coup, dans ce parcours de transition, il y a quelque chose comme ça. Donc là, en fait, oui, j'ai plus hâte d'être dans un truc un peu moins transitoire. Mais là, je suis déjà en fait en marche, donc ça va vachement mieux, quoi. C'est plutôt avant, en fait, la transition que c'était compliqué. Mm-mm.
Et de quoi on aurait besoin pour se sentir entouré quand on est en processus de transition?
Je pense d'espace de parole avec des personnes concernées, d'accessibilité simple aux soins. Et après, avec la chance d'Internet, du coup, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui passent par Internet et il y a une communauté sur Internet qui fait beaucoup de bien. Mais oui, principalement ça, quoi. Rencontrer des personnes concernées et pouvoir discuter. Mais la chance qu'on a ici, c'est que c'est ce qui se passe. Enfin, avec les LBD aussi, il y a des présences, en fait, par ici, quoi, si on veut. À l'échelle de la campagne, hein. Bien sûr, il faut faire quand même 45 minutes, une heure de route, mais... Moi, je me sens pas hyper isolée non plus, quoi. Même si je suis dans mes questionnements, dans ma tête, de temps en temps, ça va.
Donc régulièrement, vous avez des échanges avec vos pairs, PAIRS ?
Bah oui, voilà, de manière impromptue. Hein. Souvent, ça prend pas des aspects magistraux, hein, mais justement, ça fait du bien. Et ça, c'est juste hyper empouvoirant, en fait. Mm.
Est-ce que vous avez eu l'envie ou l'élan ou le besoin de lire des bouquins ou d'écouter des podcasts, enfin d'avoir accès à des ressources documentaires
Alors oui, j'ai eu besoin de me documenter par rapport à la mammectomie, par rapport à... En fait, à chaque étape, à comment est-ce qu'on se... positionne, est-ce que tu as le droit de changer d'avis, de pronom, de prénom, etc. Est-ce que tu te laisses le droit, enfin, d'avoir des témoignages, en fait, tout simplement, pour se dire, en fait, ok, où je me situe et comment je peux me situer. Et ouais, pour tout, en fait, la mammectomie, pour la testo, pour tout ça, mais c'est beaucoup, ça passe par Internet plus que par le direct, en fait.
Mais genre des podcasts ?
Des podcasts sur les transidentités, ouais, il y en a pas mal. Alors là, je saurais pas te les reciter, mais oui, des podcasts sur la transidentité, je pense que je les ai à peu près tous écoutés. Et là, il y en a un qui me vient en tête qui s'appelle Bromance. Non, qui s'appelle Transmance, du coup, qui est inspiré du mot bromance, qui est là le concept de solidarité entre hommes cis. Et du coup, là, le podcast s'appelle Transmance. Et je pense que c'est une personne, je sais pas, qui doit avoir 20 ou 25 ans, qui fait ce podcast et qui interviewe plein de personnes trans, quoi. Et c'est juste des témoignages, en fait. Juste, ça fait exister les transidentités dans leur pluralité. Et ça, c'est essentiel.
Et après, comment vous vous sentez au niveau plus politique global? Est-ce que vous avez l'impression que le climat s'ouvre dans l'accueil de la transidentité ou au contraire que les taux se resserrent ou un peu les deux?
Alors, je pense qu'il y a un peu des deux, dans le sens où, entre guillemets, on parle de plus en plus de transidentité, il y a plus de podcasts dessus, parce qu'on n'en parlait pas du tout, et peut-être parce qu'il y a plus de médias possibles aussi. Pour moi, ça fait un peu un parallèle dans l'aspect homosexuel, quoi. Du coup, quand il y a ces mêmes réactions, un peu de « en fait, c'est une maladie qui va se transmettre aux personnes, etc. » Un truc de « oui, c'est un effet de mode », enfin, j'ai entendu des trucs absurdes comme ça. Donc du coup, il y a ce truc de visibilisation qui a sa balance de pour et de contre. Donc pour moi, c'est hyper important que ce soit plus visibilisé. Et pour autant, le risque est plus grand pour les personnes concernées qui vont pouvoir être potentiellement victimes plus facilement de violences ou autres et qui peuvent être visibilisées dans un truc néfaste, quoi. Mais ou pas du tout. Enfin, en fait, il y a aussi ça. Pour moi, par exemple, il y a un truc de dans les projets de création, donc la danse et la musique que je fais... Je me mets en lumière, mais je suis je me sens hyper safe et je me sens aussi dans un truc, ok, on est là, on est en groupe et on est hyper visible. Et on est là, quoi. Et juste, on est ensemble. Et du coup, là, ce truc, c'est hyper important, ces endroits-là aussi.
C'est un truc qu'on a travaillé vite fait un peu comme ça entre nous. Et je pense qu'une fois qu'on l'aura travaillé avec un groupe, on va y arriver.
Mais ouais.
Est-ce que vous êtes en train de dire
qu'on va y arriver?
Là, il faut le travailler. Il n'y a pas longtemps qu'elle l'a arrêté.
Allez, alors on continue.
Ah si, je pense qu'il y a complètement toute une diversité au sein du monde trans et que du coup il y a une certaine solidarité, bah parce que une minorité, mais que pour autant on est quand même des individus et qu'en fait il y a autant de personnes trans que de personnes et qu'on peut être en désaccord politique aussi. Après, on est tellement une minorité qu'il y a des endroits où on sait que politiquement, il faut qu'on se retrouve quand même. Parce qu'il y a des bords politiques qui, de toute manière, n'acceptent pas la transidentité. Donc, il y a cet aspect-là qui rallie un peu plus. Mais bien évidemment que, oui, on est autant d'individus que de personnes trans et autant de parcours trans et de transidentité que d'individus aussi.
Les sorties en Janet, là, ça marche très bien. Parce que vous êtes dans ce moment de condensation, mais ça repart tout de suite, ça fait une espèce de rebond. Et il y avait même des gens à côté de moi qui étaient là, oh, oh. Il y a un espèce d'effet de surprise qui est dans l'endroit dans lequel moi je veux aller avec ça. Et ouais, on se dit, mais qu'est-ce qui lui prend à celle-là? Qu'est-ce qu'elle
Alors quand je fais la musique ou je danse, je ressens vraiment la vie là qui circule. Après, je sais que par exemple, pour moi, la danse, c'est vraiment un endroit de renaissance, de vie et de création essentielle en fait à ma vie. Et ça, j'en prends de plus en plus conscience. Et pour la musique, c'est la même chose.
Punch. Et pareil, les.
Alors, moi, dans le groupe de musique, je fais du synthé. Je m'y suis mis pour cette expérience, justement. Et c'est ce qui me plaît dans ce projet aussi, c'est que c'est la première fois que je jouais du synthé. La première date qu'on a faite, c'était... j'avais fait 3 jours de résidence avec ces personnes et on a fait une date. Et du coup, juste, on prend la place là où on en est et on n'a pas... et on joue encore des codes de... On est là. C'est pas carré comme la société voudrait que ce soit, etc. Mais en fait, on s'en fout. Nous, on a juste envie d'être là et de prendre du plaisir ensemble et de le partager.
Et les mélodies, par exemple, c'est vous qui les inventez ?
Ouais, on crée tous les morceaux et le processus de création passe par de l'improvisation et de l'écoute, en fait. Juste, on improvise, et là, il y a des morceaux qui sortent. Et moi, je trouve ça hyper beau, en fait, parce que juste, on est là, on fait, je vais dire nimp, mais on fait pas nimp, mais juste tout le monde est sur son instru, comme ça, et d'un coup, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ça match, et là, on part, et c'est... Et voilà. D'où toute la difficulté aussi, par contre, de recréer ce morceau en suivant. Mais vu que notre but principal, c'est de passer du temps ensemble et de prendre du plaisir, du coup, bon, bah, la performance scénique, c'est un autre plan et c'est peut-être pas la priorité, en tout cas, pour moi.
Constellation LGBT en ruralité, une série documentaire réalisée par Claire Cachecouche-Soucy avec un coup de main de Thomas Béranger, de Carla Caldera et le soutien de la DILCRA, une production de Air d'OTAN. La musique, c'était Meute, Empty Culvette, Heiko Date, etc. Laesque, de la musique du projet chorégraphique La Conjuration de Balkis et le Brass Coulehot. Merci à Amé et à Praline, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous ont inspirés, qui ont accepté de faire une halte pour révéler ces pans de leur intimité, pour qu'on puisse donner ces voix à entendre avec ce focus spécial LGBT en ruralité.